Merci pour cette belle présentation. Donc aujourd'hui, un thème plutôt joyeux. Demain, en effet, sur le Brésil, ce sera malheureusement plus triste. Et donc, sociologie relationnelle en 3D, au fond, c'était plutôt en 7 dimensions, mais Philippe m'a demandé de faire simple, plutôt comme un cours, plutôt que de m'adresser aux collègues qui sont là sur la première rangée, d'être assez explicite dans les références, donc je vais essayer de le faire. Et les sociologies relationnelles, c'est un article sur lequel j'ai travaillé et j'ai essayé de faire un peu une systématisation des théories. En même temps, pour commencer, je vais commencer avec une petite phrase de Auguste Comte, fondateur de la sociologie, mot bâtard. Et dans le cours de philosophie positive, à un certain moment, il y a une phrase qui tombe où il dit « Il n'y a qu'un absolu, tout est relatif ». Phrase géniale. Et effectivement, imaginons un monde dans lequel tout serait en relation avec tout, et tout serait que relation et processus. Ça va contre la vision substantialiste, statique, qu'on a du monde, où on a des objets, des personnes, et puis on essaye de construire des relations entre les objets, entre les personnes, alors que si on imaginait un monde complètement relationnel, on n'aurait pas, disons, ces figures, mais on aurait un fond, justement, sorte de bouillon, dans lequel tout serait en mouvement, et tout serait en relation. Et justement, les sociologies relationnelles essayent en quelque sorte de penser un univers social dans lequel tout serait que processus et relation. En même temps, cette sociologie relationnelle est aussi quelque chose qui est en même temps vieux comme le monde, vieux comme la philosophie, et en même temps quelque chose d'assez récent. Et quand on regarde l'histoire de la sociologie, de la théorie sociologique récente, on voit qu'effectivement, les dernières années, une sorte d'intérêt croissant pour la sociologie relationnelle. Ici, une revue que j'ai reçue il y a quelque temps, Berliner Journal für Soziologie, ils ont un numéro spécial sur les sociologies relationnelles. Je l'ai lu dans le train, comme c'est une voiture corail, j'avais plus de temps et j'ai pu le voir. Mais aussi la revue du MOS avait fait un numéro spécial. Au début était la relation, avec la grande question au commencement. Et qu'est-ce qu'il y a après? Effectivement, une question plutôt métaphysique. Et puis Aldo Huxley qui travaille sur la sociologie relationnelle à partir de Zimmel. Il travaillait déjà sur ça il y a 20 ans, quand on s'est rencontrés pour la première fois. Et donc, en même temps, quand on voit cette tentative pour réorganiser un peu la sociologie à partir de ce qui serait relationnel, mais toutes les sociologies, par définition, sont relationnelles. Dans le sens où une sociologie d'une personne seule, ça serait plutôt de la psychologie, encore qu'on peut, à la limite, invertir. Et on peut dire, voilà, la sociologie psychologique serait l'analyse de la société dans la tête des personnes. On pourrait le faire d'une façon tout à fait relationnelle, ça serait intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a des sociologies qui sont plus relationnelles que les autres. Par exemple, la sociologie de Georg Simmel est évidemment plus relationnelle, que celle de Weber avec son individualisme méthodologique, mettons en garde un peu, si vous me permettez un gros mot, qui est évidemment un individualisme ontologique. D'ailleurs, quand je pense à l'Europe à partir du Brésil, je me dis effectivement que l'individualisme est peut-être ontologique, dans le sens où c'est un atomisme et c'est difficile de construire une société avec des individus, comme on dit au Brésil, qui sont plutôt fermés. C'est-à-dire que les affects ne contrôlent, les affects sont plutôt contrôlés et sont pas fluides dans le sens où cette sorte d'affectivité, cordialité, qui est un caractère un peu typique du monde brésilien. Mais donc toutes les sociologies sont relationnelles, mais les unes plus que les autres. Par exemple, j'en parlerai, Marcel Mauss, que vous connaissez, avec sa théorie du don, qui est une théorie au fond de la relation. La relation, justement, qui est animée par le cycle du don, du contre-don. Moins relationnel, évidemment, Durkheim. Vous vous rappelez sa maxime méthodologique, il faut traiter les faits sociaux comme des choses. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait relationnel, ni processuel. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de transformer cette sorte de maxime en disant il faut traiter les faits sociaux comme des relations, comme des processus et comme des symboles. Et quand on regarde ces sociologies relationnelles qui, depuis 5 ans, disons, sont au centre des réflexions sociologiques, on se dit, tiens, intéressant, parce que ça fait en quelque sorte un thème cristallisateur, fédérateur, où plusieurs sociologies se retrouvent. Et c'est intéressant de voir parce que, disons, quand je regarde les sociologies, les théories sociologiques les plus récentes, je me dis qu'on ne fait plus, comme dans les années 80 ou dans les années 90, des grandes théories. Je ne sais pas si vous vous rappelez des noms de Habermas, Giddens, Bourdieu, Luhmann, qui étaient des théories énormes, qui était à la fois sociologique et philosophique, qui travaillait les fondements philosophiques, qui mettait en place une série de concepts comme agir communicationnel, monde, la vie, système, ou avec Bourdieu, le champ, l'habitus, les pratiques, et qui étaient en quelque sorte des théories universelles qui voulaient penser tout ce qui était social, et en même temps aussi les limites du social, et tout ça bien ficelé. Ce qu'on voit avec les sociologies relationnelles, c'est plus ça. C'est plutôt une tentative de travailler sur des théories qu'on appelle de moyenne portée, c'est-à-dire qui sont un peu moins abstraites, et en même temps qui, disons, qui se focalisent sur un certain thème. Dans ce cas-là, c'est la relation. Mais quand je pense à des autres tentative de fédérer la sociologie qui est complètement fragmentée, on pourrait dire la même chose pour la sociologie analytique, la sociologie culturelle, la sociologie pragmatique, la sociologie morale, qui d'une façon ou d'une autre prennent un certain thème, un certain concept, et qui vont, à partir de ce concept ou de ce thème, essayer de fédérer, réorganiser, réunifier la sociologie qui est tellement éclatée. Évidemment, c'est intéressant de regarder tout ça, toutes ces tentatives de fédérer, d'unifier, de synthétiser, de regarder ça à partir d'une perspective sociologique. Faire une sociologie de la sociologie, en quelque sorte. Traiter les mouvements académiques, les mouvements intellectuels, avec les concepts des mouvements sociaux. Comment on fait bouger les choses? Ça, c'est assez intéressant, parce que vous, en tant qu'étudiant, vous connaissez avant tout vos professeurs, justement comme des enseignants, mais c'est aussi des gens qui sont pris dans des champs, de conflits, de compétitions, dans des champs aussi qui sont des champs administratifs, et dans lesquels, effectivement, il faut publier. Publier pour survivre, publier pour être connu, publier pour être vu, voire même publier pour exister. Figure tragique qu'on retrouve dans certains départements. Des gens qui ont tout lu mais qui ne publient pas. Des gens qui ont une pensée extraordinaire mais qui... Et donc quand on va regarder les mouvements académiques, on va se dire, tiens, mais comment ils font ça? Justement, ce qu'il faut faire, c'est présenter un concept. Ensuite, faire un texte de base, encore mieux, produire un manifeste, comme par exemple le manifeste pour une sociologie relationnelle, et puis organiser une discussion autour du manifeste avec les copains, évidemment aussi avec les rivaux, et essayer de, à la limite, faire un numéro spécial d'une revue. Dans le monde anglo-saxon, il faut faire un handbook, un manuel qui fait le tour de la question. Et c'est comme ça qu'on arrive à occuper l'espace d'attention et créer un mouvement intellectuel, sorte de gilet jaune, mais à l'intérieur de la sociologie, de la théorie, pour être vu, entendu, reconnu, donc pour exister. Justement, ce que je vais faire, je vais regarder ces sociologies relationnelles. Ces sociologies relationnelles et essayer de voir la logique, voir ce qui les unit, voir ce qui les divise. Et qu'est-ce donc cette sociologie relationnelle? Dans un premier moment, on pourrait dire, c'est tout simplement un drapeau, un cri de ralliement. Vous qui faites de la sociologie, l'anthropologie, par définition, vous travaillez sur du relationnel. Alors, voilà, rangez-vous sous notre drapeau. On est en train de créer un mouvement, vous êtes le bienvenu, à condition, évidemment, de se citer, s'inviter dans des colloques, etc. C'est comme ça que ça marche. Donc, en même temps, un drapeau, avec un programme, également un réseau. Qu'est-ce qu'il y a de plus relationnel qu'un réseau? Justement, des gens qui sont en réseau, qui forment une association, qui se reconnaissent sous le nom de sociologue relationnel, et en même temps une proposition théorique, et c'est celle-là qu'on va analyser. Moi, quand j'ai regardé ces sociologies relationnelles, au fond, le promoteur de tout ça est un ami qui malheureusement est décédé, qui s'appelait François de Pelletot, qui était un Canadien francophone qui travaillait dans le Canada anglais et qui en même temps aussi s'était marié avec François de Pelletot.
D-E-P-E-L-T-E-H.
Qui avait épousé une Brésilienne, et donc qui passait, un peu comme moi, une partie de sa vie au Brésil, et qui était un homme très, très charmant, et qui avait une capacité de faire travailler les gens ensemble. Il avait un enthousiasme, il réussissait à convaincre les personnes. C'est comme ça qu'il m'a convaincu, en disant, en fait, on va sortir un handbook. J'en avais parlé, c'est comme ça qu'on crée du mouvement. Et il m'avait demandé, est-ce que, à l'époque, il vous voyait évidemment, puisqu'on ne se connaissait pas, vous ne voulez pas faire un texte sur la sociologie relationnelle? Et donc je l'ai fait, en quelque sorte, pour lui. Malheureusement, il est décédé, donc je lui rends hommage ici. Donc le drapeau était sociologie relationnelle. Lui-même, il avait travaillé sur la sociologie de Norbert Elias. Il avait lu le manifeste pour une sociologie relationnelle d'un sociologue qui s'appelle Emir Bayer, Mustapha Emir Bayer.
E-M-I-R, B-A,
et homme.
Y, je ne sais plus.
Je crois que c'est.
Oui, oui, je te mets.
C'est
Y
ou c'est Y?
Je crois qu'il est. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans cette bibliographie. C'est avec un Y. Et donc, lui disait qu'il faisait une sociologie relationnelle. Et quand je regardais d'un peu plus près, je me disais, mais non, lui, il ne fait pas une sociologie relationnelle. Lui, il fait une sociologie radicalement processuelle. C'est-à-dire que, pour lui, parce qu'au fond, si on veut savoir ce que quelqu'un pense, il faut penser d'abord ce contre quoi il pense. Évidemment, quand on dit une sociologie relationnelle, c'est contre une sociologie catégorielle qui travaille avec des catégories figées. Et justement, on ne peut pas prendre les entités séparées, mais il faut les prendre dans leur relation avec les autres entités en disant que, justement, les entités viennent après la relation. Justement, au commencement, il y avait la relation, et donc le reste est en quelque sorte une émanation de la relation. Donc il fait prendre les choses, comme disait Deleuze, au milieu. Il commençait au milieu. Ça serait en quelque sorte une sociologie relationnelle contre une sociologie catégorielle, substantielle, qui privilégie les entités, disons les figures, sans regarder le fond. Le fond, justement, cette sorte de soupe cosmique dans laquelle tout est plongé et d'où tout émerge. Et donc, justement, ce jeu entre fond et figure paraît assez intéressant. Et donc, François disait qu'il faisait une sociologie relationnelle. Mais quand j'ai regardé de plus près, je me suis dit, mais non, il ne fait pas une sociologie relationnelle. Lui, son truc, c'est une sociologie processuelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas de structure statique, mais on a seulement des processus et seulement des dynamiques. Ce n'est pas tout à fait la même chose. En termes, par exemple, de filiation intellectuelle, quand on pense à Bourdieu, avec sa notion de champ comme système de relation entre des positions sociales, effectivement, il pense la structure comme un système relationnel. Ça, c'est une chose. Je dirais, en employant un grand mot, c'est du structuralisme, c'est même du post-structuralisme, la structure comme système de relation entre des positions, ou si on veut faire un peu plus philosophique, ou linguistique, on va remonter à Saussure et on va dire qu'il s'agit dans la langue, il n'y a que des différences. Et c'est la relation entre les différences qui vont expliquer justement la signification des paroles. Ça serait une pensée plutôt structuraliste. En revanche, quand on pense une sociologie dynamique où il y aurait seulement des processus, ce n'est pas structure. C'est plutôt justement des processus avec un fond qu'on appelle vitaliste. Le vitalisme est une vieille philosophie qu'on peut faire monter à Héraclite, mais surtout au XIXe siècle, qui était d'ailleurs assez influente en Allemagne. Lebensphilosophie, chez Immel par exemple, où on dit que les choses vivantes, justement, ce qui est vivant est ce qui n'est pas mort. Ce qui est mort est figé, justement, est mort, est cadavérique. Et quand on regarde la vie, justement, la vie, c'est ce qui coule. La vie est non pas un long fleuve tranquille, mais un long fleuve animé, dynamique. Un peu cette vision de tout est dynamique et tout est processuel. Et donc, par exemple, la société, elle n'existe pas. Il n'y a que des processus d'association entre des personnes, entre des groupes. On peut aussi aller regarder plus loin, changer d'échelle. On défait les individus, on va regarder en dessous des individus. Là aussi, on ne voit que des processus. Et les individus, les groupes, les sociétés, tout ça émerge à partir de ces processus, de ces relations. Donc j'essayais de distinguer une sociologie relationnelle et une sociologie processuelle. Quand on fait de la théorie, un petit truc pour ceux qui aiment faire de la théorie, dans un premier moment, on travaille avec des grandes distinctions. structure versus processus. Et puis dans un second moment, on fait l'intelligent et on propose une synthèse pour dépasser cette opposition. C'est exactement ce que j'essaye de faire. J'ai essayé de faire ici. Le 3D, évidemment, c'est les deux dimensions. Et puis je vais dire qu'il faut une troisième dimension, qui est la dimension symbolique, pour pouvoir joindre les deux. Mais ça, ça sera plutôt vers la fin.
Donc, avec les 3D, précisément, ce serait ?
Ce serait...
Première dimension.
Relationnel, structurel. Seconde dimension sera processuel, dynamique, interactionniste, pragmatiste. Et la synthèse va passer par la mise en exergue du symbolique qui permet, au fond, la culture, qui oriente les pratiques, qui font la société, qui mettent en relation les personnes et les groupes. Je vais y revenir, mais d'une vision dynamique qui, en même temps, aussi tient compte des structures, des systèmes, de la société dans sa, en tant qu'elle est figée et cadavérique, en tant que justement quelque chose qui échappe à notre volonté, à nos intentions, quelque chose qu'on voudrait changer à tout prix, qu'il faut changer si on veut survivre, non pas seulement nous, mais les générations qui viennent après nous. Et donc justement, il faudra aussi penser la structure, la société dans son aspect domination, aliénation, réification, rationalisation. Et en même temps, il faudra aussi regarder les processus, les mouvements, sociaux, culturels, individuels, personnels, existentiels même, qui font qu'on veut, qu'on peut, qu'on va changer la société. Bon, je ne sais pas si on aura le temps pour le faire, mais c'est un peu ça l'idée. Donc ce que je fais, je prends toutes les théories relationnelles ensemble et puis je vais regarder comment on peut les réorganiser en voyant, en regardant quels sont les éléments nécessaire pour faire une théorie sociale relationnelle. D'abord, qu'est-ce que c'est donc cette sociologie relationnelle ? Je ne sais pas si vous voulez le plan, sinon si vous voulez un plan, il y a un plan en quatre parties. Bien, quatre parties. Dans le premier moment, je vais essayer de faire un peu la cartographie justement de cette sociologie relationnelle. Dans un second temps, je vais retourner à la sociologie classique et je vais dire que toutes ces sociologies relationnelles trouvent leur origine dans les pères fondateurs. Je n'ai pas trouvé de mère fondatrice, alors qu'il y a pour le relationnel, qui est quand même plutôt féminin, justement, dans ses énergies, puisque, j'invente un peu, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de relationnel, évidemment, dans la relation entre les genres. Et évidemment, quand on dit genre, on dit aussi généré, génératif, la mère, le père, l'amour, et même... on n'a plus besoin de père, alors qu'on a évidemment encore besoin de mère pour pouvoir justement continuer la société, la génération. Alors, ça c'était le second mouvement, et j'allais dire justement, quand on regarde les pères fondateurs, et je vais montrer, et comme Philippe m'a demandé de faire plutôt un cours, je vais regarder à la fois la théorie de Karl Marx, de Georg Simmel, Gabriel Tarde et Marcel Mauss. Je répète, Karl Marx, Georg Simmel, Gabriel Tarde et Marcel Mauss, en montrant qu'à partir de ces quatre figures, on peut développer, on peut retrouver toutes les idées, de base, et comme quoi il y a... En théorie, ce qu'on fait toujours, c'est récomposition, réorganisation. Il n'y a rien de neuf, il y a simplement une réorganisation des éléments conceptuels. en travaillant ces quatre auteurs, je vais tirer quatre concepts, quatre idées forces. Le structuralisme, qui est relationnel, le processualisme, l'interactionnisme et le symbolisme. Ça, c'est le troisième mouvement. Puis le dernier mouvement, si j'y arrive, une réflexion sur la relation entre structure et action, qui est un grand classique des cours d'introduction à la théorie sociologique. Ça fait il y a 30 ans qu'on tourne le rond. Structure agency, système agence, système structure pratique. Et pour essayer de sortir un peu de la répétition, je vais penser non pas structure et agence, mais culture et agence, et voir ce que ça donne. Quand on prend un certain thème, comme la relation, qui est un thème, quelque chose qu'on analyse, un objet, en même temps, si on veut faire une théorie, il faut transformer l'objet en projet. C'est-à-dire que l'objet est la relation, et en même temps, ce qu'il faut faire, c'est transformer l'objet en une vision, une matière, une manière de regarder, de conceptualiser le monde. D'ailleurs, quand on regarde les développements théoriques aux limites de la sociologie, quand on regarde ce qu'on appelle les studies, les gender studies, les post-colonial studies, les études de genre, qui pensent en même temps le social, mais le font sans vraiment passer par la sociologie. Ils viennent plutôt de la philosophie, l'anthropologie et de la littérature comparée. Là, ce qu'on voit dans ces nouvelles disciplines, que justement l'enjeu n'est pas de stabiliser, mais de déstabiliser la pensée et les disciplines. Et comment on peut déstabiliser et avancer ? Justement en suivant des critères un peu esthétiques. Une révolution. Il faut introduire une révolution, il faut constamment innover. Et on fait ça en introduisant un tournant dans la pensée. À Rio, j'ai fait un séminaire entier sur les tournants dans les sciences humaines, qui avait commencé en 1969 avec un livre publié par Richard Rorty qui s'appelait « Le tournant linguistique ». Puis lors, on a eu 50 tournants. Et donc, maintenant, on a un tournant relationnel. Qu'est-ce que ça signifie ? On prend un objet et on le transforme en tant que manière de voir, vision du monde. Et donc, il s'agit non plus seulement de voir et d'analyser les relations, mais de voir des relations partout. Et on peut dire que c'est exactement ce qui se fait quand on fait un tournant. Par exemple, le tournant culturel, ce n'était pas seulement analyser la culture, mais voir que la culture est partout, elle est fondatrice de tout ce qu'on regarde. Donc la culture, on la trouve dans la société, on la trouve dans l'action, on la trouve justement aussi dans les systèmes non culturels. L'armée, par exemple, aussi est une culture. Et on pourrait faire ça pour les 50 tournants. Le tournant performatif, par exemple, quand on regarde la performance, ça vient des études du théâtre, ça vient de la danse, la performance. Au départ, c'est un objet, et puis, une fois qu'on a pris le tournant performatif, ben, on voit des performances partout. On commence à analyser le social comme un théâtre, comme le faisait Goffman, comme le font les études du théâtre, mais par exemple, comme le fait aussi Judith Butler. Quand elle va révolutionner les gender studies, en justement montrant que le genre n'est pas quelque chose qui est donné, mais quelque chose qui est construit socialement, culturellement, politiquement. D'ailleurs, j'ai noté qu'en France, on ne parle plus de la construction sociale. Maintenant, il faut dire la fabrique. Donc, on va dire la fabrique du genre. Une fabrique, c'est vrai que ça a quand même un petit air... Ça nous rappelle l'Union soviétique. Alors, cette sociologie relationnelle, quand on va la regarder, comme toujours quand on travaille sur la théorie, d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut le préciser, de mon opinion, selon moi, on peut faire de la sociologie sans faire du terrain. C'est vrai qu'en France, et d'ailleurs aussi aux États-Unis, on me dit, je cite, mais je ne vais pas nommer qui est le collègue, qui me dit « Frédéric, tu es bien sympa, mais tu n'es pas sociologue. » Parce que je ne passe pas par le terrain. Et en même temps, j'estime que je fais de la sociologie, comme le faisaient les classiques. Et je crois qu'il faut repenser un peu la sociologie et la déprovincialiser. J'ai rien contre le terrain. Une bonne partie, la meilleure et la majeure partie de mes étudiants font des recherches de terrain. Mais je crois que pour repenser la sociologie, il faut penser la théorie. C'est bien de faire du terrain. Mais quand on regarde les théories et les sociologies relationnelles, ça passe, comme souvent, par des grands noms, des grands auteurs. Alors, je vais en nommer quelques-uns qui reviennent toujours dans la discussion. Il y a, d'abord, un Américain qui s'appelle Harrison White. Et lui, il a développé la network analysis, l'analyse des réseaux, qui est pensée comme une analyse structurelle, où on va tout simplement analyser les relations entre les personnes, mais d'une façon formelle. C'est-à-dire, on va analyser, par exemple, la structure des groupes en regardant les liens entre les personnes. C'est-à-dire qu'un groupe peut être très dense et très structuré, comme par exemple avec une clique. C'est des gens qui sont toujours ensemble, qui sont toujours en interaction. Mais on peut aussi penser à des groupes, disons, avec des contours beaucoup plus flous. Comme par exemple ici, nous sommes tous en coprésence. Mais ce soir, et en mai, et l'année prochaine, ce groupe sera complètement dilué. Moi, je ne sais pas où je serai.
C'est chez moi.
Chez toi ? L'année prochaine, très bien.
Non,
ce soir, oui. L'année prochaine. Et donc, un groupe, on peut voir que... Et donc, justement, analyser le social à partir des types de relations que les personnes ont entre elles. Network analysis. D'ailleurs, Harrison White était un grand matheux. Donc, pour faire une thèse ou une dissertation sur la network analysis, c'est bien aussi d'avoir un master en mathématiques. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le faire aussi, mais de façon plus intuitive, justement en suivant les personnes et en reconstruisant la forme, la structure des réseaux dans lesquels elles sont prises. Quand je disais au départ, on va faire une sociologie de la sociologie relationnelle, on va regarder le Handbook of Relational Sociology, on va regarder qui anime le réseau, comment est-ce qu'ils se connaissent seulement, disons-moi, dans des relations académiques ou dans des relations amicales. Et est-ce qu'il y a du don, du contre-don, comment ça se passe exactement? Regardez les réseaux. Une autre figure, je l'ai déjà mentionnée, qui est Norbert Elias. Norbert Elias, avec une sociologie, ce qu'il appelait la figuration. La figuration, c'est aussi des réseaux, des structures relationnelles dans lesquelles les gens sont prises. Et pour lui, c'était très très important de penser, non pas simplement à partir d'un « je » et un « tu », mais penser la sociologie à partir de tous les pronoms personnels. « Je »,« tu »,« il », »,« nous », »,« il », »,« vous », et de voir effectivement que la société doit être pensée comme justement des structures de relations entre des personnes, et la structure de la relation va déterminer ce que les personnes peuvent faire ou ne pas faire, penser ou ne pas penser. Et par exemple, pour lui, la structure paradigmatique du social était par exemple la queue, queuing, ou par exemple la danse. Mais quand on pense à la queue, justement, quand on fait la queue, ben justement, ce qu'une personne fait dépend de sa position, justement, dans la queue. Parce qu'une queue, on ne peut pas la faire toute seule. La danse, c'est la même chose. Où on voit que la position ou les degrés de liberté des personnes dépendent justement de la structure, de la figuration dans laquelle elles sont prises. Évidemment, si votre partenaire avance, ben, vous aussi, à un certain moment, vous devriez avancer. Et d'ailleurs, si toute la série avance, là aussi, et justement, ils pensaient les sociétés modernes comme des sociétés dans lesquelles les relations entre les personnes étaient tellement denses que justement, les personnes commençaient à se contrôler leur affect, contrôler leurs sentiments, et à partir de là, il faisait toute sa théorie de la civilisation. Voilà. Pierre Bourdieu, évidemment, lui aussi, il pensait de façon tout à fait relationnelle. D'ailleurs, moi, j'avais pas mal travaillé sur Bourdieu. J'avais fait un article qui s'appelait « Le réel est relationnel », qui est une variation d'une phrase fameuse de Hegel dans la philosophie du droit, dans laquelle il disait « Le réel est rationnel ». Je vais pas expliquer maintenant. Si vous voulez une explication, parlez avec Philippe ou avec Aldo. Mais donc, le réel est relationnel. Oui, il voulait dire, ben justement, si on veut comprendre quelque chose, disons, les pratiques d'une certaine entité, disons un journal ou une faculté, ben justement, on ne peut pas regarder l'entité en tant que telle. Il faut la mettre dans son champ et penser de façon relationnelle. Donc, si vous voulez penser, voir, expliquer les positions et les positionnements de, disons, Le Figaro, ben, il faudra voir que Le Figaro est toujours en train de réagir à Le Monde et Libération. L'Équipe aussi, mais beaucoup moins. Parce qu'ils sont pris dans un champ. De la même façon, si vous voulez savoir ce qu'on pense à Caen, comme vous le savez, puisque vous êtes de la province, il faut toujours faire le lien par Paris, justement, parce que c'est Paris qui détermine la structure du champ. Ça, c'est du Bourdieu élémentaire. Le réel est relationnel. L'unité d'analyse chez Bourdieu, c'est quoi? Toujours la même, c'est toujours le champ. Donc, il faut commencer avec le champ. Une fois qu'on a fait le champ, il faut réintroduire l'habitus. Vous connaissez la chanson, je peux passer au prochain.
Vous ne pouvez pas la chanter?
Non, mais on peut la chanter ensemble. Ça va nous transformer, ça va faire la sociologie comme une chanson collective. Puis on a John Dewey. John Dewey est un Américain, philosophe, pragmatiste. Et maintenant, le pragmatisme est revenu à la mode grâce au bon service de Luc Boltanski, Laurent Thévenot, qui publiait en 1991 un livre qui s'appelait « De la justification », où, après coup, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'affinités avec le pragmatisme américain. Et maintenant, on fait une distinction entre la sociologie pragmatique, sous-entendu celle qui est française, et la sociologie pragmatiste, qui serait celle qui vient directement de le mouvement pragmatiste, où on retrouve des noms comme Charles Sanders Peirce. Je dis Peirce, mais ça s'écrit d'une façon différente. C'est d'ailleurs la meilleure façon de voir avec les gens s'ils savent de quoi ils pensent, ils parlent. Si vous prononcez Peirce, vous savez parce que... Donc c'est Peirce, mais ça s'écrit d'une autre façon. Il y avait John Dewey. Et en sociologie, vous connaissez peut-être le nom de George Herbert Mead. Oui? C'est ce que, quand le pragmatisme philosophique des années 20 de Chicago... Voilà. C'est ça. Donc, dans vos notes, vous marquez Peirce, et surtout, vous faites comme Philippe, vous évitez...
Non, c'est pas Peirce, je l'écris mal.
Moi, je l'écris Peirce.
E-I, voilà.
Voilà. Voilà. Et donc le pragmatisme revient en force, à la mode. Quand on regarde les filiations, ce qui était philosophie pragmatiste aux États-Unis a ensuite donné ce qu'on appelle l'interactionnisme symbolique, qui passe par George Herbert Mead. Et puis, à partir des années 90-2000, ça devient pragmatique, sociologie pragmatique, qui est très forte en France. Et donc Dewey, tout comme James, qui faisait aussi, qui est le plus génial sans doute de tous, ben justement, il pensait la société en termes de processus, d'interaction, et donc ceux qui s'inspirent du pragmatisme vont dire que la structure est toujours processus. Le système est processus, parce qu'il faut analyser la société en train de se faire. Donc une vision dynamique. Nicolas Luhmann est un autre nom. Là, une théorie hyper complexe, hyper sophistiquée, que je ne vais pas vous expliquer ici. Mais disons, une sorte d'Edgar Morin, beaucoup plus compliqué dans son langage. Et alors qu'Edgar Morin, évidemment, cherche toujours l'espoir, est un bon humaniste, Luhmann fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il a un regard très très dur sur la société, qu'il analyse comme un système. Et d'ailleurs, il construit sa théorie de telle façon que les êtres humains ne font même pas partie de la société. Ce qui est un peu bizarre quand on fait de la sociologie, de voir que les individus, les personnes ne font pas partie de la société. La société est faite de communications qui se communiquent, et par la communication, je vous ai dit que je n'allais pas expliquer, c'est assez compliqué. Bruno Latour, théorie des acteurs réseaux. Là aussi, une autre théorie, très très influente. Qu'est-ce qu'il disait Bruno Latour ? Il disait qu'on ne peut pas faire une société seulement avec des humains. Et il retournait d'ailleurs au contrat social de la tradition philosophique, Hobbes, et il disait, avec des humains, on ne peut pas faire une société, il faut un contrat, et pour que le contrat tienne, justement, il faut un objet matériel. C'est-à-dire, il faut un papier, il faut passer chez le notaire, justement, l'objet qui puisse tenir, faire tenir les humains. De la même façon, ici, nous formons une société sociotechnique, mais sans mon papier et vous sans vos chaises, c'est ça une chaise ? Une chaise, voilà. Là, excusez-moi, des fois, il y a des interférences à la fois de l'anglais et du portugais. Donc, vous sans vos chaises aussi, ce serait difficile de former une société. Et là, on forme une société, non seulement nous, mais aussi les objets non humains, les non humains. Et d'ailleurs, toute cette théorie est en quelque sorte une théorie de la mondialisation. Comment, justement, chacun essaye d'enrôler, intégrer le maximum de personnes et d'objets dans son réseau. Un peu comme Ketchup qui essaye de, dominer le monde en exportant ses produits en Chine, en Inde et un peu partout. Ça forme un réseau qui se tient. Bon, j'avais dit que j'allais faire un plan avec quatre éléments. Je suis toujours au premier. Quand on regarde ces constellations, toutes ces théories qui se font, en général à partir d'un ou deux auteurs, c'est-à-dire que, par exemple, on peut faire une carrière en disant qu'on va essayer de joindre la théorie des réseaux de Harrison White, Network Analysis, avec la théorie des acteurs réseaux, en disant, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on met ces deux théories ensemble ? Ou on peut essayer de joindre la théorie des systèmes de Luhmann, par exemple avec la théorie aussi avec le pragmatisme. Qu'est-ce que ça donne ? Réarticuler. Je vous passe les détails et je dis, si toutes ces théories, si on veut les intégrer dans un cadre unique, il faudra les unifier dans leur approche ontologique, épistémologique et méthodologique. Là, je vous ai fait peur. Je sais que cette distinction entre ontologie et épistémologie, pour les étudiants, c'est toujours fatal. Mais l'ontologie, basiquement, a trait à ce que la réalité est en tant que telle, alors que l'épistémologie est plutôt une réflexion comment on peut la connaître. On pourrait dire que la réflexion ontologique est une réflexion sur ce qu'est le réel, comment il est fait, quelles sont les entités, quels sont les processus, quelle est justement la perspective ontologique. Va dire qu'il y a, au départ, il n'y a pas seulement des individus, parce que les individus ne peuvent pas exister sans, au préalable, avoir une relation. Ça me paraît assez évident, en tout cas c'était évident jusque les années 60, avec la naissance de Lucy Brown, qui était le premier bébé à éprouvette. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était évident que pour avoir un individu, il fallait des parents. Et donc, la relation vient avant. On pourra aussi dire, non, mais au départ, et certainement quand on est sociologue, parce que qu'est-ce que fait le sociologue ? Le sociologue, il est obsédé, il veut voir la société partout. La société, mais la société aussi, on ne peut pas la substantifier, on ne peut pas la personnaliser. D'ailleurs, l'individu et la société n'existent pas en tant que tels, mais ils existent seulement par leur mise en relation, par une co-implication. Donc le point de vue ontologique sera de dire qu'il y a seulement des relations et des processus. Tout ce qui est statique, substance, etc., vient des processus et des relations. Donc on part d'un univers dans lequel les entités séparées interviennent seulement comme résultat justement du grouillement du monde duquel ils émergent. D'ailleurs, quand on va regarder, quand on va penser le social, ben justement, on va se dire, non, il n'y a pas seulement des sociétés, on va regarder, il y a des interactions, il y a des réseaux, il y a des systèmes, il y a tout ça, des figurations, des institutions, des formations, et tout ça, c'est des entités relationnelles. Et d'ailleurs, pour faire une bonne vision, une ontologie du monde social, il faudra d'une façon ou d'une autre articuler tous ces concepts. Interaction, institution, structure, système, réseau. Et donc, il faudra avoir une théorie de tout ça, que je n'ai pas, je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas vous dire qu'à la fin que j'ai plus le temps, tout simplement je ne l'ai pas. Quand on passe au niveau épistémologique, c'est-à-dire comment, si tout est relationnel, s'il n'y a que des relations et des processus, ben à ce moment-là, il faudra aussi des concepts relationnels et processuels. Parce que les concepts, en général, ils sont plutôt figés. Alors comment on peut faire des concepts mouvants, des concepts fluides ? C'est un peu comme les poissons, il faut les prendre. Et il faut courir après, justement, pour pouvoir, maintenir les relations, penser la relation et penser les processus. Là, on le fait, par exemple, contre les autres approches, qui, elles, sont dites substantialistes, parce qu'elles ne pensent pas la relation, comme, par exemple, le choix rationnel. Ce qu'ici en France, on appelait à l'époque l'individualisme méthodologique, comme le fonctionnalisme, qui va là aussi poser la société, comme le faisait Talcott Parsons. Où on va prendre des concepts comme pouvoir, identité, fonction, et on va faire l'effort de les reformuler en termes relationnels ou processuels. Par exemple, le pouvoir. Ben le pouvoir, ce n'est pas une entité, ce n'est pas une substance. Comme disait Hannah Arendt, le pouvoir, c'est quand les gens interagissent ensemble. Le pouvoir est quelque chose qui émerge. Ou quand on prend une vision plus weberienne et donc nietzschéenne, le pouvoir, c'est justement un jeu de relations entre des personnes. D'ailleurs, on peut avoir une vision tout à fait conflictuelle du monde, dans laquelle celui... Il y en a toujours un qui va gagner et un autre qui va perdre. On peut aussi essayer de sortir du jeu de somme nulle. Là, pour les questions justement sur hegeliennes, et les jeux à non somme nulle. Là encore, je renvoie à Aldo, qui vous donnera... Et donc, qu'est-ce qu'on a au niveau épistémologique? Une conversion du regard qui fait que n'importe où on va regarder, on va seulement voir des relations et des processus. Alors, on passe au niveau méthodologique. Si vous avez une vision ontologique du monde comme relation et substance, si vous avez en même temps, c'est ce que je disais au début, la phrase d'Auguste Comte, il n'y a qu'un absolu, tout est relatif, on y est, alors il faudra aussi une méthodologie relationnelle. Par exemple, qu'est-ce qu'une méthodologie non relationnelle? Ce serait une méthodologie linéaire. Je ne sais pas s'il y a des positivistes dans la salle. Les positivistes, c'est ceux qui font de la sociologie quantitative. Au fond, des matheux, des économistes perdus dans la sociologie. Et donc, ils travaillent avec des grandes banques de données et qui vont chercher les relations entre les variables dépendantes et indépendantes. Ça, c'est une relation linéaire. Parce que dans une méthodologie relationnelle, on ne va pas linéariser. On va dire que toutes les entités qui sont en relation, on change n'importe quoi dans le réseau, et cela va affecter la valeur de toutes les variables. Donc on ne peut pas les maintenir de façon linéaire. D'ailleurs, c'est exactement ce que Bourdieu faisait quand il analysait l'analyse de correspondance. Vous savez ce que c'est? C'est justement ce qu'on pourrait appeler de façon sophistiquée une phénoménotechnique. C'est-à-dire que c'est une vision du monde relationnel, justement, qui paraît positiviste, mais en fait est tout sauf positiviste, parce qu'elle est relationnelle. Et donc ce que je dis, c'est que si on veut unifier les sociologies relationnelles, ben, il faudra intégrer à la fois l'ontologie, l'épistémologie et la méthodologie. Je parlais de bon Dieu, mais on pourrait faire la même chose pour l'analyse des réseaux. On pourrait faire la même chose pour Latour et sa théorie des actor network, les acteurs réseau. Voilà. Voilà un peu pour une cartographie des sociologies relationnelles à partir des auteurs contemporains. Maintenant, mais je ne sais pas si on va faire une pause avant que je passe à la seconde partie.
Je ne crois pas.
Très bien. Donc là, je vais suggérer qu'en dessous de tout ça, on retrouve les fondateurs de la sociologie. Évidemment, j'aurais pu retourner à la philosophie, en retournant à Héraclite, en retournant au nominalisme scolastique du Moyen-Âge, en retournant à la théologie perspectiviste Cusanus, en renvoyant à Leibniz, en renvoyant à Hegel. Non. Mais justement, je me dis, il ne faut pas le faire parce que les sociologues ne lisent plus de la philosophie. Et donc, plutôt que de retourner vers les grands courants de la philosophie, pour ne pas perdre votre attention, je me dis, voilà, on va prendre les classiques de la sociologie, Marx, Zimmel, Gabriel Tarr et Marcel Mauss. J'ai mis Marcel Mauss à cause de Philippe, mais je sais qu'il ne m'en voudra pas. Donc si je n'arrive pas à la fin, ben, là, ça ne va pas être Aldo. Voilà. Marx, évidemment, est un penseur éminemment relationnel. Il veut en effet dissoudre les substances en processus et en relations. Une citation plus ou moins prise au hasard. La société ne consiste pas d'individus, mais elle exprime la somme des interrelations, les relations à l'intérieur desquelles on trouve les individus. Ça vient de l'idéologie allemande. Mais on trouve des passages identiques dans la critique de l'économie politique. Mais pour expliquer les visions marxistes, je vais retourner au Capital. Capital, Première partie, sous-section 4, sur le fétichisme des marchandises. Le capital, c'est trois volumes. Althusser, il disait qu'il fallait oublier le premier volume, qu'il fallait tout de suite passer au second. Ben non, moi je m'arrête au premier chapitre, la fameuse section sur le fétichisme de la marchandise et son secret, qui est une section assez spéculative. Moi, quand j'ai fait ma thèse, je vous ai vu, moi j'ai travaillé sur les théories de la réification. Réification comme chosification, c'est-à-dire la transformation en une chose de ce qui n'est pas une chose. C'est quoi ce qui n'est pas... Quand j'expliquais à mon grand-père, il y a 20 ans, il me disait, tu travailles sur ça? Et je disais oui. Mais donc ici, ça peut être la transformation d'une personne en une chose, en une marchandise, transformation d'une relation en une chose, la transformation d'un système en une chose qui paraît hors contrôle et qui nous contrôle, qui est le capitalisme. Mais ici, je vais prendre donc l'idée centrale du fétichisme de la marchandise et son secret. La phrase centrale est la suivante. Une relation déterminée entre des personnes apparaît comme une relation entre des choses. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de la monnaie. Il s'agit de la marchandise qui apparaît comme une chose, mais en fait, ce n'est pas une chose. Oui, ça a l'air tout à fait spéculatif. Et à l'époque, quand je faisais, à l'époque, ça s'appelait encore un DEA, je me rappelle que j'avais lu pas mal de textes, mais ça me faisait tourner la tête. Un jour, je tombe sur un livre « Investigation ou recherche dialectique » de Lucien Goldman, où il explique. Une paire de chaussures coûte 500 francs. Il avait mis 5 000, il comptait encore en ancien francs. Je vous avoue, moi je compte toujours en francs belges. Mais il y a... Et donc, quand on dit une paire de chaussures coûte 5 000 francs, ce qui apparaît comme une relation entre des choses, c'est-à-dire qu'on compare le prix d'une chaussure avec une autre, est en vérité une relation entre des personnes. Justement, entre le fermier qui a ses vaches, en même temps l'abatteur ou l'abattoir, le tanneur, le vendeur. Donc effectivement, la société, quand on va regarder justement en dessous de la marchandise, on va voir des relations, et les relations sont des relations sociales. D'ailleurs, quand on va regarder, on va voir que ce sont des relations de classe. Et effectivement, quand on est marxiste, qu'est-ce qu'on va faire? On va injecter une sociologie du conflit de classe, et à partir de cette injection d'une sociologie de la lutte des classes, on a toute une philosophie de l'histoire qui intervient. Donc la relation entre le fermier, ses vaches, le tanneur, etc., évidemment, est une relation de domination. Il y a toujours un prolétaire en jeu qui donne plus que ce qu'il reçoit. C'est ça l'exploitation reformulée dans les termes du don, du Mauss. Et donc, effectivement, quand on regarde n'importe quel objet, on peut, un peu comme un prestidigitateur, tirer toute la société, toute l'histoire, justement, de n'importe quel objet. C'est assez fabuleux, c'est exactement ce que je disais au départ. Imaginons un monde dans lequel il n'y aurait que des relations entre des personnes qui sont prises dans des systèmes, alias un système capitaliste qui n'est rien de figé, qui n'est rien d'éternel, mais qui est continuellement en mouvement. D'ailleurs, c'est justement ça. Il paraît qu'on est pris dans un système de domination et d'exploitation, mais on sait très bien, en réinjectant la lutte de classe et une philosophie de l'histoire, que ça va ou bien se terminer ou se terminer mal. Et donc on remet du mouvement dedans, et même dans des époques comme la nôtre, où on a l'impression qu'il n'y a pas de mouvement, mais il n'y a que de la régression, c'est quand même bien d'avoir une sorte de philosophie de l'histoire de l'échange qui peut faire avancer les choses. Le second auteur, ce sera Georg Simmel. Georg Simmel, quand on regarde sa sociologie, on verra qu'au fond, que lui, d'ailleurs, il ne se considérait pas comme un sociologue. Il se voyait avant tout comme un philosophe. Et il disait que la sociologie, oui, je l'ai pratiquée pendant quelques années de ma vie, mais mon cœur et ma formation est vraiment philosophique. Un livre très important, « La philosophie de l'argent ». Là, quand on va regarder, typique pour Zimmel. Zimmel est un auteur. Il travaille sur des objets anodins. La porte, le pont, la lettre, le bijou. Et en même temps, ce qu'il va faire, il va passer d'un objet à un autre. Et en même temps, il va multiplier les regards sur les objets. Donc il est parfaitement indiscipliné. Il passe de la psychologie de l'argent à la philosophie de l'argent, à la sociologie de l'argent. Et pourquoi ? Ben justement parce qu'il peut passer d'un objet à un autre, parce que tout est en relation avec tout. Donc effectivement, on peut faire une philosophie ou une sociologie de la table, puis des chaises, tout est relationné, tout est en relation. Et en même temps, on peut aussi changer les éclairages. Et effectivement, c'est quoi sa vision ultime du monde ? Ben, c'est que si on ajoute toutes les perspectives sur le monde et tous les objets qui sont interconnectés, toutes les perspectives sur le monde et les objets dans le monde, quand on rejoint tout, c'est identique. Ça, c'est une vision qu'on retrouve chez Leibniz. La première fois que je l'ai vue, que je l'ai lue, presque une attaque mystique, parce qu'effectivement, quand on multiplie toutes les perspectives sur le monde, ben, elles vont être identiques au monde lui-même. Ça, c'était une intuition que Zimmel a travaillée dans sa philosophie de l'argent, mais dans sa sociologie, cette sociologie, elle est extrêmement fluide et dynamique. Le sous-titre de la grande sociologie est « Les formes d'association ». Formen der Volksgesellschaftung, qu'on traduit parfois par forme de association. Émile Durkheim lui-même, il avait traduit les textes Zimmel, et lui, il l'avait bien vu. Il avait traduit Volksgesellschaftung, qui indique le processus, par association. Ce qui est bien, parce que ça nous permet de penser une sociologie des associations et de la société civile, faire des liens entre Mauss et Zimmel. D'ailleurs, je crois, vu le temps, que je vais laisser tomber tard et je vais passer à Marcel Mauss pour terminer la seconde partie. Donc, est-ce qu'on a des formes d'association ? Le cours, tout comme la conférence, est une forme d'association. Ici, nous formons une société, c'est-à-dire que nos consciences sont interconnectées, vous m'écoutez, bon, une bonne partie de vous, pas toutes et pas tous. Mais donc, nous sommes connectés justement par une forme qui est la forme de la conférence, le cours, qui évidemment est différent de la forme de la danse, la manif. Et justement, ce qu'on voit, on partage cette forme, et cette forme fait qu'on peut coordonner nos actions. C'est-à-dire qu'ici, pour l'instant, il n'y a qu'une personne qui est autorisée à parler.
Des fois,
il me coupe la parole. Mais ça, c'est justement le format. Et donc, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez de temps en temps me regarder. C'est comme ça qu'on est en société et qu'on forme une société. Donc, on a une notion de forme, d'interaction. Et donc, justement, la société, c'est quoi ? C'est des millions, des milliards de sociétés, comme la nôtre, qui émergent, qui disparaissent. C'est ça, la société, un grouillement de micro-sociétés, de nanosociétés. Assez intéressant. Gabriel Tarde, je vais y aller rapidement, il a été réintroduit dans le débat grâce à Bruno Latour. Bruno Latour qui a fait un livre, d'abord en anglais, « Reassembling the Social ». Je ne sais pas comment il a été traduit en français, mais là il disait que la vision de la sociologie qu'il a ne vient pas de Durkheim, mais vient de Gabriel Tarde. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les filiations, la filiation, ouais, Latour, Gabriel Tarde, Deleuze, et pour les philosophes dans la salle qui veulent faire une thèse mais ne savent pas encore tout à fait sur qui, vous pouvez toujours remonter à Spinoza. Et qu'est-ce qu'il disait ? Exactement l'inverse de Durkheim. Que disait Durkheim ? Il faut traiter les faits sociaux comme une chose. Que disait Gabriel Tarde ? Toute chose est une société. Donc une sociologie universelle. Il regardait au-dessus de lui dans les étoiles, et qu'est-ce qu'il voyait ? un même grouillement de processus, de dynamique, de choses qui étaient interconnectées et qui forment une société. Aussi bien le tout grand, donc quand on change d'échelle, que le tout petit, effectivement, vous allez regarder dans votre microscope et vous allez voir la même chose. Un grouillement. Tout ce qui existe, même la matière, est une matière animée. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a une perspective animiste, vitaliste, dans laquelle la vie est sociale par définition, et la vie, elle est animée. Donc même la matière est une matière vive. Donc effectivement, tout est en mouvement, tout est dynamique. Et d'ailleurs, les choses qui sont des sociétés en elles-mêmes se communiquent non pas par représentation, mais par imitation et par partage des affects. Les affects, c'est très très important aussi. C'est des choses qu'on ne peut pas capter, mais quand on les capte, c'est exactement ce qui met les choses en communication. Par exemple, l'enthousiasme. S'il y a quelqu'un dans la salle qui est hyper enthousiaste, justement, pendant l'entracte ou après, on va communiquer, justement, on va partager les affects joyeux, comme disait Spinoza, et pour les autres, les affects tristes, effectivement, n'agrègent pas, mais désagrègent. Marcel Mauss, puisqu'il faut bien y venir. Je vais quand même... Marcel Mauss et la sociologie relationnelle. Ça, c'est assez intéressant parce que Marcel Mauss, il est à la fois, disons, le père du structuralisme français qui passe par Lévi-Strauss, et il est en même temps aussi le grand-père de la sociologie anti-utilitariste de Alain Caillé et de Philippe Chagnal. Et justement, c'est quoi l'idée ? Ben, c'est justement que la société est une association entre des personnes et des groupes qui sont en rivalité ou en solidarité les unes avec les autres. Et donc là, toute son analyse de la Kula et du Potlatch, où il va découvrir en quelque sorte que si la société se tient, c'est grâce à des relations de réciprocité entre les personnes et entre les groupes. Au fond, c'est grâce au don. Les relations de don, ce n'est pas seulement une chose des primitifs, où on peut analyser le potlatch et la kula, etc., mais à partir d'une intuition tout à fait fondamentale, que la vie sociale, elle se tient seulement, parce que quand on va regarder, justement, au fond, il y a toujours un don, et un contre-don. Et ces relations sont absolument essentielles. On peut comprendre des rivalités, justement, où on donne un coup et on va en prendre un, mais aussi pour la générosité. Ça vaut pas seulement pour les sociétés primitives, mais ça vaut aussi pour les sociétés modernes. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on passe d'une économie politique, le capitalisme comme on le trouve chez Marx, on va vers une sociologie morale dans laquelle les relations entre les personnes, même si elles paraissent impersonnelles, abstraites, désaffectées, sans affect, sans émotion, justement, quand on regarde un peu, on jette un second coup d'œil, on va voir que justement les choses aussi sont animées, et c'est exactement l'inverse du fétichisme chez Marx. Parce que ce qui fait que les choses bougent et que aussi les personnes échangent, c'est justement parce qu'à chaque fois qu'on donne, on donne une partie de soi-même. Et cette partie de soi-même est un peu comme un esprit qui fait que justement les personnes peuvent communiquer, échanger des regards, des sourires, des paroles, des silences. Et voilà, je crois que je vais terminer ici là. Je crois que c'est la seconde partie, il en reste deux, mais on va faire un intervalle. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a quatre auteurs. Au fond, au départ, on avait toute une foulée d'auteurs. J'en avais sept ou huit, mais je ne pourrais pas facilement multiplier. Puis j'ai dit non, si on regarde au fond, on voit qu'il s'agit toujours de mélange des auteurs classiques. Et ce que je vais faire maintenant, à partir des auteurs classiques, d'idées forces que j'ai développées, disons, j'ai essayé de développer de façon pédagogique, je vais tirer des figures en disant que quand on regarde les sociologies relationnelles, qu'on voit quatre constellations en quelque sorte. Et je vais les nommer le structuralisme, le processualisme, l'interactionnisme et le symbolisme. C'est-à-dire ces quatre grands courants de pensée que je nomme isme, et où je vais dire, voilà, la pensée structuraliste est par définition une pensée relationnelle. La pensée processualiste, comme le nom indique, je l'avais déjà dit au départ, que je distinguais la sociologie relationnelle de la sociologie processuelle. Puis je vais regarder les interactions, l'interactionnisme, les interactions entre les personnes qu'on a trouvées, qui sont là au fond de tous les auteurs, mais qu'on va regarder. Et le symbolisme, parce que comme je vous disais au départ, justement pour pouvoir synthétiser tous ces auteurs et tous ces mouvements, je me dis qu'il faut réinjecter le symbolisme. Et donc, quand je disais, voilà, une relation, la sociologie relationnelle en 3D, c'était justement parce qu'à partir du symbolisme qui met les personnes en relation, qui permettent de concevoir une conception et de partager une conception du monde, on peut mettre les choses ensemble et les mettre en mouvement. Mais alors, on va commencer avec le structuralisme. Le structuralisme que je conçois comme sorte de dérivation, pour parler comme les économistes, de Marx, Zimmel et Mauss. Marx, structuraliste, très connu dans les années 50, c'était l'interprétation d'Althusser. Mauss, ben, évidemment, on le reconnaît, parce que l'introduction à sociologie et anthropologie de Lévi-Strauss, qui se présente comme une introduction, mais qui est en fait un manifeste du structuralisme. Et Zimmel dans tout ça. Zimmel, d'où vient-il? Et c'est là que j'ai découvert en travaillant sur Elias, en travaillant sur Bourdieu, qu'il y avait une figure en dessous, qui est un philosophe qui s'appelle Ernst Cassirer, qui avait fait en 1911 un livre qui s'appelle « Substance et fonction », qui est un livre absolument fabuleux. Cassirer qui va faire en quelque sorte la synthèse de la physique de son époque, de la biologie de son époque, de la mathématique de son époque, et qui va dire, qui va voir dans toutes ces disciplines, qu'au fond, ces disciplines sont tous passées d'une vision substantialiste à une vision relativiste, relationnelle, que lui il appelle fonctionnalisme, mais qui n'est pas le fonctionnalisme des anthropologues ou des sociologues. Et pourquoi Zimmel? Parce que Cassirer, il est un élève de Zimmel. Et Zimmel avait dit, effectivement, qu'à la Belle Époque, à l'époque où il écrivait, qui était la Belle Époque, ben, il avait noté, justement, qu'il y avait une tendance à la dissolution de tout ce qui était substance, en mouvement et en relation. Et donc, Cassirer, le dernier philosophe universel avec une vision encyclopédique du monde, en tant que bon étudiant, il avait justement travaillé cette intuition et il montrait au fond qu'on était passé dans toutes les disciplines, dans toutes les sciences, d'une logique des catégories et des substances, comme il était philosophe, il disait que c'était la logique aristotélicienne, où on était passé à une logique relationnelle de fonctions et de champs. Le champ, vous connaissez, c'est du Bourdieu, on est passé par là. Eh bien, effectivement, Bourdieu, il avait très très bien lu Cassirer. Mauss, d'ailleurs, il avait aussi lu Cassirer. Et donc, on retrouve là des constellations, des idées, voilà, le structuralisme. C'est quoi l'idée de base du structuralisme? Ben justement, on ne peut pas prendre les identités de façon séparée, mais il faut les voir à l'intérieur d'un champ. Et donc, tout est en relation. Et disons, l'identité se détermine à partir des relations dans lesquelles elles sont prises. Je l'ai expliqué avec Bourdieu. On pourrait faire la même chose à partir de la linguistique structuraliste de Saussure, en montrant que l'identité, la signification vient des différences, donc des relations. Et pour ceux qui qui ont déjà entendu parler du post-structuralisme. Le post-structuralisme, c'est justement quand on ne peut pas déterminer la valeur d'un élément à partir d'un système fermé, c'est-à-dire que tu changes un tout petit peu ici et ça, tout va changer, mais en même temps, le système est fermé. Quand tu commences à ouvrir le système, de sorte que quand tu fais bouger un élément, que justement, ce n'est pas fermé, mais ça répercute à l'infini. C'est ça le passage du structuralisme au post-structuralisme. Donc les relations qui résonnent, en quelque sorte, qui partent à l'infini. Alors que dans une grammaire structuraliste, on a une matrice de possibilités qui est déjà fermée dès le départ. Donc la pensée structuraliste, elle est certainement une pensée en termes de relations. Le processualisme. Évidemment, l'idée est qu'il faudra joindre une pensée de la structure, du système, de la société, avec justement une pensée processuelle. Là, je vois la pensée processuelle comme une synthèse de Simmel, de Gabriel Tarte et de Marcel Mauss. Justement, l'idée que la société doit être vue comme un ensemble dynamique d'associations sans émergence. Excusez-moi pour utiliser un terme technique. L'émergence, c'est par exemple comme on le trouve chez Durkheim dans les règles de la méthode sociologique, quand il va dire, voilà, quand on va regarder l'hydrogène qui fait l'eau, c'est les éléments, quand on les prend de façon séparée, mais quand on les joint, on a une nouveauté qui émerge de la nature et qui ne peut pas être, disons, la totalité est plus que les parties. Et c'est comme ça qu'il arrivait, de la biologie à la psychologie, à la sociologie, en disant que l'association des esprits fait qu'il y a quelque chose qui va émerger, qui est la société qui n'était pas dans les parties. Mais justement, la pensée processuelle, elle va nier l'émergence. C'est-à-dire que tout est flux, tout est dynamique, et au fond, il n'y a pas d'émergence. Il faut toujours replonger et la société, et les esprits, et les corps, dans un flux dynamique, tout est processus. Et donc, par exemple, quand on pense à la société ou au système, ben justement, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est des flux, c'est en quelque sorte des pratiques. Donc on en arrive à une ontologie des flux et des pratiques en mouvement, tout est mouvement. Alors que chez le structuralisme, on a un système fermé, horizontal. Ici, on a en quelque sorte le mouvement, le dynamisme qu'on va réintroduire. Alors, l'interactionnisme. L'interactionnisme, c'est parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a ? Une soupe cosmique et en même temps un système de relations entre des positions. En même temps, il faut réintroduire de l'humain là-dedans. Qu'est-ce qui est plus humain que justement l'interhumain ? La rencontre avec l'autre. Donc là, il faut penser l'interaction. L'interaction, le face-à-face, la rencontre des personnes, disons la relation entre je et tu, entre moi et entre vous. Parce que justement, c'est ça qui est tellement fascinant quand on fait de la microsociologie. Se regarder dans les yeux, se parler, faire les choses ensemble, l'interaction. Ça aussi, c'est un élément, évidemment, relationnel. Par exemple, être en relation, être dans une relation, ben c'est exactement ça. C'est la beauté du visage de l'autre, pour parler comme Lévinas, et ça aussi la sociologie, elle doit l'intégrer. Elle doit l'intégrer, les interactions, entre ceux qui sont présents, mais aussi entre ceux qui sont absents. Et c'est là qu'il faut pouvoir, en quelque sorte, construire ou penser la société, à partir d'associations entre personnes présentes. Et puis ici, le groupe, le village, la ville, le département, la nation, le monde. Et pour ceux qui ont des tendances spéculatives, on pourrait même introduire, et pourquoi pas, les extraterrestres, avec qui on peut également entrer en communication, et les esprits, qui aussi vont former une société, une vision, en quelque sorte, de l'univers, à partir de cette relation qui est tellement forte, l'ontologie première de la rencontre avec l'autre. Donc là, jusque-là, tout va bien, mais il manque un élément. Quel est l'élément? Le symbolisme. Le symbolisme, parce que par exemple, quand on pense à l'interaction, je vous ai déjà parlé du pragmatisme. Quand ça arrive dans la sociologie, c'est l'interactionnisme symbolique. Eh bien, effectivement, le langage est absolument essentiel, les symboles sont absolument essentiels, parce que justement, grâce aux symboles, grâce au langage partagé, on peut se comprendre et on peut agir ensemble. Ça, c'est extrêmement important, je crois. Pour, justement, c'est une idée qu'on retrouve dans la sociologie interprétative. Là, on la trouve chez Weber, on la trouve chez Schutz, on la trouve chez Mead, mais évidemment, on la retrouve déjà chez Zimmel et chez Mauss également. L'idée que l'interaction n'est pas une relation tout simplement entre deux personnes, mais qui est toujours médiatisée par un tiers élément, qui évidemment, dans la philosophie antique, était Dieu, qui devient par après l'esprit, chez Hegel, l'esprit absolu, mais on pourrait dire qu'avec l'avènement de la modernité, ben justement, Dieu disparaît et tout ce qui était transcendant devient immanent. Un peu la vision qu'on a de la croix, on tire la dimension verticale, on met tout à l'horizontale, et ce qu'on maintient en quelque sorte, c'est justement quelque chose de vague qui est l'esprit objectif, pour parler comme les philosophes, et la sociologie est justement la science qui va analyser l'esprit objectif, les institutions, ce tiers élément qui fait que nous pouvons non seulement nous comprendre, que nous pouvons former une société, que nous pouvons coordonner nos actions, que nous pouvons former un nous. Et justement, à partir de cette vision-là, ben, on retrouve une vision qui est à la fois structuraliste, processuel, interactionniste et symbolique. Et pour développer, disons, toute cette idée, ben, je devrais passer à la troisième et la quatrième partie. Mais là, je crois que c'est un bon moment maintenant pour faire la pause.
Parfait. Merci à toi. On reprend dans...